merci pour votre accueil et puis votre soutien, votre fidélité. Je vais apporter un court témoignage, juste dire quelques mots par rapport à ce qu'on a vécu en Bulgarie ces derniers temps. Et puis, je pense qu'il y aura l'occasion de donner plus de détails cet après-midi, de montrer des photos un petit peu. Ça permet quand même de mettre des visages sur les noms qu'on rencontre. Vraiment, je voudrais commencer avec un témoignage de reconnaissance au Seigneur qu'il a permis que l'œuvre continue en Bulgarie. Parce que bon, ce qu'on a vécu est assez dramatique. Bon, ce qu'on a vécu dans notre œuvre, en fait, dans l'œuvre que Dieu nous a confiée, c'est aussi un petit peu par rapport à ce que le pays tout entier est en train de vivre. La Bulgarie, c'est terrible parce que vous avez un pays qui a été occupé pendant des siècles par les Turcs, donc c'était l'islam. Ensuite, il y a eu quelques décennies de relative liberté, quelques églises qui ont été implantées, puis vous avez eu 45 ans de communisme où l'église a été terriblement persécutée, presque anéantie, quoi. Et puis 20 ans de démocratie, bon, qui est en train de tourner presque un peu à l'anarchie, tellement il y a de désordre, mais de liberté en tout cas, où bon, il y a énormément de personnes qui sont venues de l'extérieur. L'église a grandi, mais elle a grandi comme un chou-fleur, quoi. Vous savez, ça grandit très très vite, hein, comme de la crème chantilly. Il y a plein de petits groupes d'églises, de mouvements qui se sont créés partout, mais finalement presque aucun missionnaire n'est resté, et presque tout ce qui a été construit est en train d'être gagné par le désordre et de retomber. Et bon, on fait face à une très très forte opposition, presque on pourrait presque parler de persécution, et c'est très très particulier. Bon, hier on voyait le Maroc, on voyait comment les autorités petit à petit, presque systématiquement, sont en train de chasser tous les missionnaires. Bon, nous on n'est pas persécutés par le gouvernement, par l'État, on est presque, on peut dire, persécutés par le mouvement religieux auquel on appartient. Et ça nous a conduit à faire face à des pressions de plus en plus grandes, hein, qui ont finalement conduit au moment où moi et ma famille, on a été trahis par l'équipe bulgare avec laquelle on était, et on s'est fait précipitamment chasser de l'église qu'on avait fondée. En fait, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est une petite église baptiste qui avait été dans la petite ville de Berkovitsa, fermée par les communistes, et qu'on a rouverte à partir de zéro. Donc c'était début 1994. On a recommencé quelques réunions, petit à petit l'église a grandi, on a eu beaucoup de péripéties, parce qu'il y a une première équipe ils étaient partis vers l'église pentecôtiste, qui nous ont abandonnés. On a reconstitué une deuxième équipe, l'église ayant grandi, pu acquérir c'était une école à l'abandon que les communistes avaient commencé à construire sur une colline. Donc on a petit à petit transformé tout ça en église. Il y avait une petite école biblique, un centre médical, et puis plusieurs stations qui petit à petit ont commencé à s'implanter dans la région. Donc à Montana, qui est un petit peu la capitale de province, à 25 km, et puis dans plusieurs villes et villages d'alentour. Et l'œuvre florissait en apparence, même si je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On savait pas vraiment qu'est-ce qui va pas, mais il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, surtout dans l'équipe missionnaire qui était autour de moi. Et puis tout à coup, en quelques jours, en quelques semaines, on se rend compte qu'on était entouré d'ennemis à tous les niveaux. L'église dit, le conseil dit, l'équipe missionnaire dit, on va transformer ça en hôtel, gagner de l'argent, faire une piscine, une salle de musculation, un sauna, on va devenir riche. Et tout à coup, c'est comme si plus personne s'intéressait à la cause de l'évangile. Et puis, il s'agissait d'emprunter des sommes d'argent énormes. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que, je me suis rendu compte que si je cédais pas, j'étais chassé purement et simplement à la procédure rapide, quoi, en 3 semaines, quoi. En 4 semaines, on te chasse avec l'approbation de toutes les autorités religieuses dans le pays. Du jour au lendemain, on perdait l'équipe missionnaire, toute la base matérielle, le bâtiment, toute l'œuvre, en fait. Et c'était presque pour nous, c'était la fin de tout. Émotionnellement, c'était la fin de tout. Et bon, moi j'ai cru que c'était fini. Et puis bon, il y avait Damien et Marinège qui avaient été envoyés par la mission Timothée. Ils étaient là depuis 10 jours. Ils venaient d'arriver, ils s'étaient mariés le 31 mars, ils sont arrivés le 20 avril. Le 1er mai, le conseil vote pour moi, contre moi pour me chasser. Et le bureau à Sofia approuve totalement que je sois chassé, donc on est vraiment, on est hors la loi, quoi, on est chassé. Et je dis à Damien, écoute, c'est en train de mal tourner, on a tout perdu, t'es venu pour travailler dans ce centre, développer les camps, les colonies de vacances, faire de l'accueil, bon, c'est en train de mal tourner, tu peux repartir, moi je t'en veux pas si tu repars. Mais bon, Damien, il a répondu, c'est le Seigneur qui m'a appelé ici, j'ai été envoyé par le Seigneur, à la vie et à la mort, je reste avec toi. Bon, c'était déjà un signe, c'était déjà un signe que le Seigneur ne nous avait pas abandonnés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'église, la petite église de Montana ne suivait pas ce qui se passait, donc nous restait fidèles, dont le couple de Stéphane et Bonca avec lequel on travaille en ce moment. Et ensuite, il y avait toutes ces petites stations autour et on a posé la question aux stations, voilà, je me suis fait chasser. Selon les autorités religieuses qui sont responsables de nous, je suis plus digne d'être pasteur. Ils m'ont chassé. Est-ce que vous voulez encore de nous? Est-ce que vous voulez encore qu'on s'occupe de vous? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement on doit être chassé, quoi? Et la plupart des stations ont été fidèles. Donc on a pu reconstituer une équipe missionnaire, récupérer presque toutes les stations. Se relocaliser donc au niveau de l'œuvre à Montana où on n'avait pas de bâtiment. Alors là-bas, on se faisait un peu chasser par les autorités de la ville de lieu en lieu. Je vous raconterai un peu cet après-midi. On a réussi à avoir un terrain, à construire un petit bâtiment. Il n'y a que 40 mètres carrés parce qu'ils ne nous ont pas permis plus. Mais en tout cas, on a notre petite église et l'œuvre a pu continuer. Les conséquences ont cependant été très très difficiles pendant 3 ans. On s'est rendu compte qu'il s'était passé vraiment des choses terribles à Berkowitza, notre ancienne équipe, que vraiment ils avaient trahi l'œuvre de Dieu d'une façon terrible. Et puis pour ma famille, c'était aussi extrêmement dur. Mes enfants se sont fait chasser de l'école du dimanche devant tous les autres enfants. Publiquement humilié, mon épouse a été humiliée publiquement aussi devant toute l'église, pour eux c'était presque à la limite de perdre la foi, quoi. Alors vraiment, on a vécu des moments de solitude, de désespoir, mais à la limite du supportable. Mais on est reconnaissant au Seigneur que maintenant ça fait 3 ans, donc on peut dire qu'on est un petit peu en exil. On est un petit peu en exil, hein, parce qu'on est vraiment tout seul, on est complètement isolé, mais dans le pays, mais l'œuvre redémarre, il y a des personnes nouvelles qui viennent, il commence à y avoir un ministère auprès des jeunes, l'équipe est soudée, elle tient bon, ma famille va beaucoup mieux, reprend espoir, on va déménager, donc on va quitter Berkowitza pour s'installer donc à Montana, là où on travaille, et il y a, c'est indiscutable, c'est évident qu'il y a une œuvre du Seigneur qui agit, qui est là. Il y a des personnes qui sont touchées, qui sont amenées au salut. Et puis, il y a de l'espoir dans le combat. Parce que le combat pour la Bulgarie, c'est qu'il y ait une église qui tienne à la sainteté et qui soit fidèle au Seigneur, où les chrétiens puissent servir leur Seigneur sans crainte. Les Bulgares ont droit à ça. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. C'est un combat terrible. On peut dire qu'un peu nos ennemis sont à nos trousses. Hein. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des menaces, hein, vraiment. Hein. Mais le peuple bulgare a droit à une église qui tient à la sainteté, qui est fidèle, qui honore le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, pour que les frères et sœurs puissent servir le Seigneur sans crainte. Et c'est un combat terrible parce que c'est pas de nous qu'il s'agit, c'est de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si c'était de nous qu'il s'agissait, ce serait facile. Si c'était de créer une organisation humaine, si c'était juste de faire de l'œuvre humanitaire, si c'était juste de... Bon, ce serait pas difficile. Mais le combat, c'est pour la connaissance du Seigneur. Et c'est pour ça que c'est un combat terrible, parce que c'est un pays qui a été esclave et oppressé pendant toute son histoire. Un pays qui est plongé dans la mort, dans l'occultisme, la superstition, et puis des défis spirituels énormes. Mais il y a une victoire qui est remportée et qui est en train d'être remportée. Alors, inutile de vous dire à quel point on a besoin de vos prières. à quel point on a besoin de vos prières pour l'œuvre en Bulgarie. Y a deux choses qui pour moi sont vraiment tellement évidentes quoi, dans mon cœur après ce qui s'est passé. La première, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est un miracle. Ça ne dépend pas de nos efforts, de nos stratégies. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui, la stratégie. Avoir une bonne stratégie missionnaire, bien étudier le terrain, bien être qualifié. L'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos capacités, de notre stratégie, de nos qualifications. C'est un miracle, c'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui touche au moyen de la parole. On peut être les meilleurs qualifiés au monde, si ce n'est pas le Seigneur qui agit, qui nous protège déjà, qui protège notre vie, et puis qui protège cette œuvre, on ne peut rien faire. L'œuvre, c'est un miracle, c'est un don de Dieu. La parole parle de l'œuvre du Seigneur comme l'œuvre de Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence qui n'existe pas. L'œuvre de Dieu, c'est un miracle. Et ensuite, y participer, c'est un immense privilège et c'est un sujet de reconnaissance. Parce qu'on en voit plein autour qui font naufrage par rapport à la foi. Et quand on voit quelqu'un qui fait naufrage par rapport à la foi, il faut qu'on se dise, moi aussi j'aurais pu faire naufrage par rapport à la foi. Quand on voit quelqu'un qui tombe, il faut qu'on se dise que celui qui se tienne ferme prenne garde de tomber. Hein. On voit la trahison, hein. On voit parfois l'apostasie, on voit des désordres de toute nature. Et si on en a été protégé, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est vraiment une grâce, c'est un sujet de reconnaissance. C'est un privilège qui est immense de servir le Seigneur. Et la seule chose que ça peut nous amener à faire, c'est de louer, c'est d'adorer. C'est de prier pour que le Seigneur nous donne de tenir bon. Hein. S'il tient bon ou il tombe, dit Paul, cela regarde son maître, mais son maître est puissant pour le faire tenir bon, hein, dans l'Épître aux Romains. Donc c'est de rester dans la dépendance du Seigneur pour qu'il nous permette de tenir. Donc ça c'est pour le témoignage, je vais peut-être vous lire quelque chose de la parole de Dieu maintenant. Je voudrais vous parler justement donc de... La souffrance du peuple de Dieu et la souffrance pour la cause du peuple de Dieu. Et je vous propose de lire le psaume 44. Après, je lirai quelques autres passages complémentaires de la parole. Le psaume 44. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu, ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. Ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous as rejetés. Tu nous as couverts de confusion. Tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu n'en augmentes pas le prix. Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est toujours devant moi et la honte me couvre le visage. À la voix de celui qui déshonore et bafoue, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive et cependant nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas volé ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Lève-toi, Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. Et pour compléter, quelques passages, il y en aurait plein. Je vous propose le psaume 77, le début. À partir du verset 2. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Et puis dans le Nouveau Testament, ce que Paul dit, d'abord on pourrait lire dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4. Deuxième donc aux Corinthiens 4. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 31, par exemple. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Seigneur, le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la parole du Seigneur soit bénie. Vous imaginez bien qu'on a lu quelques textes, on aurait pu lire jusqu'à ce soir. La souffrance du peuple de Dieu persécuté pour la justice, c'est un thème qui court de la Genèse à l'Apocalypse, hein, des Abel qui se fait tuer par son frère, jusqu'à l'Apocalypse où on voit le peuple de Dieu qui lutte dans les derniers temps contre les forces déchaînées de l'ennemi. Et il est écrit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu Satan par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau qui a été versé. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'au point de craindre la mort. Et quand on prend le psaume 44, on a en fait une sorte de... C'est comme si on avait une sorte de pièce de théâtre en plusieurs actes. Le psalmiste, il passe d'un sujet à l'autre et il nous fait traverser il nous fait passer par une succession en fait de paradoxes. Des paradoxes, c'est des choses qui sont pour nous incompréhensibles. Des paradoxes, c'est quelque chose qui est absolument contradictoire, absolument inexplicable. C'est comme s'il se mettait, à neiger en plein mois de juillet. C'est comme si tout à coup, le ciel nous tombait sur la tête ou c'était le monde à l'envers. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est des choses qui pour nous sont absolument incompréhensibles. Vous savez, on est bien peu de choses, hein. Je crois que vraiment un des problèmes qu'on a, nous, l'homme contemporain occidental, on aimerait bien tout expliquer. Et on n'arrivera jamais à tout expliquer. Alors surtout dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Il y a parfois des choses qui sont vraiment terribles et on se demande pourquoi. Et là, on voit, il traverse une crise morale, une crise spirituelle, mais vraiment terrible, terrible. Il mène un combat terrible dans la prière, mais dans ses pensées. Mais vous savez, quand les enfants de Dieu prient, le Seigneur écoute, mais on ne sait pas quoi demander dans nos prières. Parfois, on a nos petites listes de prières, notre petite organisation dans la prière et on prie pour nos sujets. Mais que demander dans les prières quand on fait face à une vraie adversité? Quand on fait face à une vraie adversité, David, il dit, mes ennemis m'avaient attaqué, ils étaient plus forts que moi, ils m'avaient attaqué au jour de mon malheur. Mais comment prier? L'apôtre Paul dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, c'est l'Esprit en nous qui intercède par des soupirs inexprimables. Et le Seigneur, il entend nos prières, il voit nos combats, il voit nos larmes, il voit les moments où on ne sait pas quoi demander, il voit les moments où les frères et sœurs se réunissent et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Parfois, lorsque les enfants de Dieu, on parle ensemble de l'œuvre de Dieu, c'est comme si on priait. On parle ensemble de l'œuvre de Dieu, on cherche à comprendre. Et là, il cherche à comprendre. Et il cherche à comprendre pourquoi est-ce que le sanctuaire a été dévasté, pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il souffre et est persécuté de façon terrible. Dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament, on voit l'Église persécutée. Pourquoi est-ce que l'Église est persécutée? Pourquoi est-ce que les missionnaires se font chasser du Maroc? Et encore se faire chasser, c'est terrible, mais c'est presque le moindre mal. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui pourrissent dans les prisons, qui se font moquer, bafouer, mettre à mort? Enfin, c'est terrible. Et alors les fils de Corée, ils cherchent à comprendre. Et ils se disent, je veux raconter les œuvres de l'Éternel. Je veux chercher quelle est la base de l'existence du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la base de l'existence du peuple de Dieu? Dieu l'a élu. Dieu l'a choisi et Dieu l'a établi, il lui a donné l'héritage, la terre promise. Et bon, notre héritage, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la demeure céleste. Et c'est pas par des mérites humains et pas par la force humaine. Il dit, ce n'est pas mon épée, ce ne sont pas nos armées, ce ne sont pas notre force. Bien sûr, c'est le langage de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, il est rentré en Canaan, il est rentré dans la terre promise. Bien sûr, ils ont combattu, mais c'était l'Éternel qui combattait devant eux. C'était la force de l'Éternel. Lorsque les murailles de Jéricho sont tombées, c'est pas parce que Josué était un meilleur tacticien comme les meilleurs tacticiens de l'Empire romain qui ont réussi ou Alexandre le Grand qui ont réussi à édifier des empires humains qui se sont effondrés d'ailleurs. Ensuite, non, c'est pas ça. C'est parce que c'était le Seigneur qui leur avait donné. Et le salut, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Ça nous a été donné, ça nous a été accordé, c'est une œuvre parfaite, c'est une œuvre accomplie. C'est une œuvre dans laquelle on rentre uniquement par grâce. Il n'y a aucun mérite. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Et ça, Dieu le dit bien à Israël dans le Deutéronome, et puis tout le temps. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand des peuples, c'est parce que tu es le plus petit des peuples, le moindre des peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a fait alliance avec vos pères. Et c'est ça. Ce n'est pas par leur épée qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu leur étais favorable, parce que tu les aimais. Donc, ça c'est la base de l'œuvre de Dieu. La base de l'œuvre de Dieu, c'est le dessein parfait, éternel. Il nous est révélé même dans le Nouveau Testament, c'est des choses qui nous dépassent. Mais quand Paul il dit qu'on avait été aimé, qu'on avait été choisi avant les temps éternels, c'est-à-dire avant que le temps existe, bon, c'est des choses qu'on pourra jamais le comprendre tant qu'on est ici-bas sur cette terre. Qu'est-ce que c'est le temps avant que le temps existe, hein? Je pense que dans l'éternité non plus, le temps n'existera plus. Dieu sera tout en tous. Ça, c'est des choses, on les voit, on les saisit par la foi, on peut les méditer, mais on n'arrivera jamais pleinement à les saisir. Et ça montre que l'œuvre de Dieu, elle est certaine, elle est merveilleuse, elle est indestructible. Et donc c'est les fils de Corée, là, ils se réjouissent. Ils disent, mais oui, c'est Dieu qui nous a donné ce pays, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a aimés, c'est quelque chose d'inconditionnel, c'est quelque chose qui est complètement par grâce, c'est pas nos mérites, etc. Et puis, donc il y a le premier paradoxe, tout à coup, éternel, tu sors plus avec nos armées, tu nous accompagnes plus, les ennemis sont en train de nous détruire de tous côtés, de nous ronger de tous côtés. J'ai eu des moments d'angoisse en Bulgarie, épouvantables, où je vois les ennemis, ils sont à nos trousses. Et on ne lutte pas contre la chair et le sang. Bon, il y a des gens qui sont utilisés, mais c'est Satan. Et on voit, on est en train de se faire ronger. Jusqu'à l'os, jusqu'où est-ce que ça va arriver? Petit à petit, c'est comme si un vêtement là, qui est en train de s'effilocher. Tu vois que tout petit à petit, pièce par pièce, est en train de s'effondrer devant toi. Et ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure des années. Et à la fin, il n'y a pratiquement plus rien. À la fin, puis il y avait des collègues qui me disent, bah, Joël, t'as échoué, t'as plus qu'à repartir. Retourne dans ton pays, vas-y dans ton pays. Je vais au bureau responsable de l'église à Sofia. Ils me disent, bah, la meilleure chose que t'as à faire, c'est de repartir, reviens d'où t'es venu. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, c'est terrible. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, tu nous as couverts de confusion, tu nous as rejetés, tu sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'adversaire, tu nous disperses parmi les nations. Et alors là, on se dit, quand tout à coup, tout pièce par pièce semble s'effondrer morceau par morceau devant toi. Et ça, il y a des moments où le peuple de Dieu, il vit ça. Hein. Vous savez, la mode aujourd'hui, c'est le triomphalisme. C'est insupportable. C'est les méga church, les grandes églises, hein. En Corée, aux États-Unis, dans le comté d'Orange. Vous avez des livres où vous avez 40 leçons pour arriver à la grande victoire dans la vie chrétienne. Hein. Et puis vous avez des livres où si vous faites comme ça, si vous organisez les parkings comme ça, les bâtiments comme ça, l'école du dimanche comme ça, vous allez avoir une super grande église, les gens ils vont venir, vous allez surfer sur le haut de la vague. Bon, ce sont des fausses doctrines, c'est un faux enseignement. Si l'église grandit, vous savez pourquoi l'église grandit? C'est parce que le Seigneur nous a fait grâce, point. Si une personne est sauvée, c'est pas parce qu'on a été des évangélistes plus qualifiés que les autres. C'est pas parce qu'on a été mieux organisé que les autres. Ça veut pas dire qu'on doit négliger l'organisation. Mais ce qu'on demande à un administrateur, c'est d'être fidèle. D'être fidèle dans les petites choses. C'est-à-dire faire ce qu'on nous demande. C'est tout. Le Seigneur, il nous demande de faire ce qu'on nous demande. Hein? Il nous demande pas d'être productif comme si on est une entreprise où on est en train de vendre un produit. Il nous demande d'être fidèle. Et si l'Église grandit, c'est une grâce, point. Alors le triomphalisme, les grandes églises où on compare que plus l'église est grande, plus la bénédiction est grande, plus l'église est riche, plus la bénédiction est grande, c'est faux, parce qu'il y a des pays, il y a des dizaines de pays où l'église est persécutée, où elle est enterrée, où les chrétiens croupissent en prison, ils ont vécu ça toute leur vie, et excusez-moi de vous le dire, ils verront jamais rien d'autre. Probablement. Les chrétiens qui ont vécu au Moyen-Âge sous l'Inquisition, ils ont vécu l'Inquisition toute leur vie. Les protestants qui ont été persécutés sous Louis XIV, qui a régné 70 ans, ils ont vécu la persécution toute leur vie, ils n'ont jamais vu autre chose. Alors certains voudraient essayer de nous convaincre qu'ils étaient moins spirituels et qu'ils savaient moins saisir la victoire que nous. C'est faux. C'est faux. Au contraire. Et là, tout à coup, on a, c'est comme si on avait un absurde. Tout à coup, on voit que l'œuvre de Dieu est persécutée au point que les enfants de Dieu, ils perdent leur vie. Excusez-moi, mais bon, à vue humaine, perdre sa vie, c'est tout perdre. Bon, on perd son église, se faire chasser de mon église. Bon, moi quand je me suis fait chasser, j'avais l'impression que Dieu m'a abandonné. Voilà, j'avais l'impression, qu'est-ce que j'ai fait pour me faire chasser? Alors d'abord, je suis coupable de quelque chose, bien sûr, on fait toujours des erreurs, bien sûr, évidemment. Mais bon, tout à coup, tu te fais chasser, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ensuite, est-ce que Dieu m'a abandonné? Et là, tu commences vraiment à chercher, parce que c'est terrible, parce que c'est épouvantable. Tu te dis, c'est pas possible qu'à moi ça arrive. Et puis petit à petit, tu te rends compte qu'on est entouré de chrétiens, de frères et sœurs dont on n'en entend jamais parler. Ils n'ont pas des sites sur Internet, ils n'ont pas écrit des livres, tu sais, les livres, et puis à l'arrière, tu as la photo de celui qui a écrit le livre, et puis t'as tous les diplômes qu'il a eus, tu sais, comme ça, il peut être élevé, et puis, oh là là, le bel auteur, là, il a... Voilà. Non, ils pourrissent dans les prisons et personne ne connaîtra jamais leur nom. Parfois, on sait quelqu'un, le nom de quelqu'un qui a été martyrisé là-bas en Iran ou en Corée du Nord. Mais la plupart, on ne connaît pas leur nom. Ils ont disparu pour toujours. Ils ont tout perdu leur vie. Et là, la question, c'est pourquoi? Et pourquoi? Et alors, on se dirait... que c'est comme souvent dans l'Ancien Testament, ou souvent dans l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël a adoré les idoles, le peuple d'Israël a oublié Dieu, le peuple d'Israël s'est écarté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a permis le jugement. Bon, ça on voit ça à énormément d'endroits dans la parole. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est comme s'il y avait un paradoxe supplémentaire. Le peuple de Dieu souffre, et pourtant, qu'est-ce qu'il est dit? Tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas volé ton alliance, notre cœur ne s'est pas détourné, nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases, etc. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort toujours. Et là, les fils de Corée, ils proclament la justice du peuple de Dieu. Ils disent, nous sommes persécutés, mais nous n'avons pas abandonné le Seigneur, nous avons été fidèles à l'Alliance. Et là, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que nous, on peut dire ça? Est-ce que moi, je peux dire ça? Vous savez, il y a ce verset où Jean, il dit dans son épître, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une grande assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons, ça nous est accordé. » Dans la première épître. Bon, est-ce que moi, je peux dire ça, que j'ai été fidèle à l'Alliance? Et bon, quand on voit notre vie, quand on voit notre indignité, quand on voit nos tentations, quand on voit notre péché, les moments où on tombe, les moments où on fait, on est faible, on est accusé parce que on veut pas se faire d'illusions sur nous-mêmes, parce qu'on se connaît. Et puis bon, il y a aussi l'ennemi, il y a l'accusateur des frères. Et puis bon, il y a toujours des frères et sœurs juste pour te montrer un petit peu qu'est-ce qui va pas dans ta vie. Certains vraiment dans l'amour pour te redresser, d'autres pas tout à fait dans l'amour et pas tout à fait pour te redresser, hein. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Et pourtant, voilà, ils le disent, les fils de Corée. David, à un autre moment, le psaume 18, il prononce des paroles qui sont tellement, tellement fortes. Verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi, et je n'écarte pas de moi ses prescriptions, j'ai été intègre devant lui. » Je me suis tenu en garde contre ma faute. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. David dit ça avec assurance. Et pourtant, on sait que David a péché. On sait qu'il avait la même nature que nous. Certains de ses péchés, de ses égarements sont décrits avec pas mal de détails dans la parole. Et pourtant, il a cette assurance. Et cette assurance, cette justice, bien sûr, ce n'est pas notre justice. c'est la justice du Seigneur. Ces mots qui sont écrits, ils concernent le Messie, ils concernent le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paroles prophétiques. Qu'est-ce qui fait la justice du peuple de Dieu? Ce n'est pas notre nature qui est pécheresse, qui est vouée au péché. Il n'y a rien de bon en nous. Isaïe dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc ça, c'est la réalité pour moi, c'est la réalité pour toi, c'est la réalité pour tout le monde. La justice, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ. On est justifié par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau. La justice du Seigneur Jésus est sur nous. Et c'est sur la base de cette justice que nous pouvons rentrer dans le sanctuaire, que nous avons l'accès au-delà du voile. C'est sur la base de cette justice que nous confessons notre foi, que nous adorons, que nous servons et que nous menons le combat. Et en nous, si on regarde à nous-mêmes, on n'a aucune justice, on n'a aucun mérite, on n'a aucune capacité à combattre, on n'a aucune raison d'être défendu, on n'a aucune raison même de prier, même d'avoir accès à Dieu. Mais justifié en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, le juste, est mort et a été ressuscité, qu'il a parfaitement accompli la volonté du Père, l'amour du Père, qu'il est parfaitement aimé par le Père, par la foi, la repentance, la confiance, l'obéissance quotidienne en Jésus-Christ. Il y a cette chose qui est humainement, sans l'assistance du Saint-Esprit, incompréhensible, mais dans l'Esprit, qui donne vraiment une pleine assurance. Le Seigneur est notre justice. Il est justice en nous, il est justice pour nous, et il y a la justification par la foi, donc la justice du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu juste est persécuté. Juste parce que c'est celui qu'on adore qui est juste, parce que c'est sa justice qui est sur nous, parce que c'est en lui qu'on se confie. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a cette assurance extraordinaire où le psalmiste, dans ce combat terrible, il arrive à remporter la victoire. Il dit, nous avons été fidèles, nous n'avons pas abandonné. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être fidèle? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est fidèle en nous et qui nous maintient dans la fidélité. Qu'est-ce qui nous permet d'aimer? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui aime en nous, parce que c'est le Seigneur Jésus qui aime en nous. Sinon, on ne peut pas aimer. Qu'est-ce qui nous permet de servir? C'est parce que c'est le Dieu Tout-Puissant par sa parole et puis par l'assistance des frères et sœurs en se soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ qui nous permet de servir. Sinon, on ne pourrait pas servir un millimètre, on ne pourrait rien faire dans l'œuvre de Dieu. Donc il y a cette action de Dieu, il y a la justice du Seigneur. Et là, il y a cette assurance des fils de Corée. Nous n'avons pas abandonné l'alliance. On a tenu la main du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui tient notre main. On a tenu la main du Seigneur, on est resté fidèle. Et la conclusion, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on est considéré comme des brebis qui sont menées à la boucherie. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu souffre? Le peuple de Dieu souffre à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a cette souffrance. On ne peut pas l'éviter. Le christianisme évangélique, une grande partie du christianisme évangélique contemporain voudrait évacuer ça. On voudrait vivre une vie de chrétienne triomphaliste, où la souffrance sera soit complètement anesthésiée, il y a certaines musiques, il y a certaines louanges, il y a certaines façons d'essayer de vivre la vie d'église où on essaie d'anesthésier la souffrance, ou alors de l'évacuer complètement, c'est-à-dire de plus mener le combat, donc de plus porter l'opprobre du Christ. Mais on ne peut pas l'évacuer si on est les vrais enfants de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dit Paul. Donc, elle est inévitable, cette souffrance. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est que cette souffrance. C'est pas parce que nos caprices se sont pas réalisés. C'est pas parce que je voulais un peu plus de plaisir et j'ai pas pu l'avoir. Je voulais un peu plus de confort et j'ai pas pu l'avoir. Je voulais que les gens autour de moi, ils soient plus gentils avec moi et ils l'ont pas été. C'est pas tous nos petits caprices quotidiens qui n'en finissent pas. Heureusement, le Seigneur nous en délivre, parce que si on écoutait nous-mêmes, si on écoutait nos caprices, si on écoutait notre chair, où est-ce que ça irait nulle part? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du fait qu'on ronchonne parce qu'on aimerait bien que notre vie soit un petit peu plus facile, un petit peu plus confortable, un petit peu plus reposante, etc. Non, là, il s'agit d'une autre souffrance. De quoi il s'agit? Il s'agit de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on vit dans un monde qui est accablé par Satan, le prince de ce monde. On vit dans une dispensation qui est appelée le présentage mauvais. on vit dans un temps où l'Église est petite, l'Église est faible, l'Église est persécutée de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur. On vit dans un monde qui est méchant, qui profère des paroles arrogantes contre le Seigneur tous les jours, en permanence, partout, par les médias, par les amis, par les gens tout autour. Et puis on vit parce que nous marchons par la foi et par la vue. Il y a la réalité de la victoire. Il y a des moments où on la voit, mais il y a beaucoup de moments où on la voit pas. Il y a des moments où on prie la guérison et le Seigneur accomplit un miracle, il guérit. Il y a des moments où on prie la guérison et puis on souffre encore dans notre corps, on reste malade. Il y a des moments où on demande à Dieu d'intervenir, Dieu intervient et il intervient de façon mais fracassante, miraculeuse. Et puis il y a des moments où il nous dit d'attendre 20 minutes ou 20 ans, il nous demande d'attendre. Et on ne sait pas pourquoi il nous demande d'attendre. Et il y a des saints, il y a des serviteurs du Seigneur qui ont vu des victoires extraordinaires. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11. Et puis il y en a d'autres qui sont morts en fixant avec le regard de la foi la patrie céleste et qui n'ont jamais rien vu de leur vivant. Comme Abraham qui a été amené dans la terre promise, mais la seule chose qu'il a possédée dans la terre de Canaan, c'était le tombeau de sa femme. Bon, c'est pas énorme, hein. Comme bien immobilier, c'est pas énorme. Et la seule chose qu'il a possédée, c'était le tombeau de sa femme. La caverne à Macpéla, il a été errant toute sa vie. On peut parler de Moïse qui a vu la terre promise, qui n'a jamais pu y rentrer, et puis bon, on peut les prendre les uns après les autres, tous les autres. Donc, c'est sûr, c'est très très différent de notre mentalité, de notre monde, où on veut rentrer dans sa possession, on veut posséder, on veut parvenir, quoi. La parole, c'est pas un chemin où on va devenir des petits parvenus selon les critères de ce monde. Si on cherche ça, ça va pas marcher. C'est une marche par la foi et on ne sait pas ce qui nous attend. On va peut-être voir des choses extraordinaires, visibles. On va peut-être pas les voir. Et on ne sait pas. Et puis c'est pas nous qui décidons. C'est surtout c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui établissons une stratégie, qui établissons un plan et on y va. On est entièrement dépendant. Et cette dépendance du Seigneur, elle amène les fils de Corée à prononcer des paroles qui sont. Là, c'est encore plus choquant. C'est encore plus choquant que tout le reste. Parce que là, c'est Dieu lui-même. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Moi, quand je lis ça, ça me paraît pas. Pourtant, ça me paraît pas théologiquement très correct, hein, vous savez. Lève-toi, dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi. Est-ce que le Seigneur dort ? Un jour, mes enfants, ils étaient petits, c'était mon gamin Martin, il avait 5 ans, il me dit, mais est-ce que Dieu dort parfois ? Je dis, écoute, non, il dort pas, il dort jamais. Alors Jésus dans la barque, qu'est-ce qu'il faisait pendant la tempête ? Donc, il réfléchit. Mais bon, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? On pourrait presque dire qu'il blasphème. Et pourtant, c'est une parole inspirée, attention, hein. C'est, la parole, elle est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et bon, là, ça prouve que vraiment devant Dieu, que combien on est humilié, quoi. C'est comme si le Seigneur, il dormait. Réveille-toi. Et il ne dort pas. Mais il sait très bien, les fils de Corée savent très bien que le Seigneur dort pas. Ils savent très bien, ils connaissent parfaitement le respect qu'on doit au Seigneur. Ils écrivent, inspirés par le Saint-Esprit. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre pas la faiblesse de Dieu, ça montre la nôtre. Ça montre pas les limites de Dieu, ça montre les nôtres. Ça montre que notre compréhension de l'œuvre de Dieu, même quand on est les fils de Corée, excusez-moi, je pense que les fils de Corée, ils avaient une connaissance de Dieu infiniment supérieure à la mienne et à la tienne et à la nôtre. Ils écrivent la parole inspirée du Seigneur, ils ont écrit ça, c'est extraordinaire. Et pourtant, il y a des moments où la connaissance des fils de Corée, c'est que le Seigneur, j'ai l'impression que tu dors. Hein ? On peut être maître en théologie et puis avoir nos diplômes et avoir fait nos études et je sais pas quoi et avoir lu nos livres. Et on connaît bien la doctrine, vous savez, et on connaît bien la théorie et on connaît bien, enfin, on connaît plein de trucs sur Dieu. Et puis il y a des moments, on est retenu là. On est en prison comme Paul, on est persécuté, on est tenu en échec. Et la seule perception qu'on a de Dieu, c'est qu'on a l'impression qu'il dort, on a l'impression qu'il nous a laissé tomber. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il nous montre ce qu'on est, il nous montre notre capacité elle est nulle.
Et Paul dit, cette capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Pourtant, je peux vous dire que Paul, c'était quelqu'un, il n'était pas bête, il avait quelque chose dans la tête. Il avait étudié, il connaissait 5 ou 6 langues, il avait fait l'université de Jérusalem au pied de Gamaliel, il avait fondé des dizaines d'églises. Il dit, notre capacité ne vient pas de nous. De ce qui a été considéré pour moi comme un gain, j'ai considéré tout ça comme une perte à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je considère tout comme de la boue. Il y a une seule chose que je veux retenir, c'est de le connaître lui. Participer à ses souffrances, à sa gloire, à sa résurrection. Donc, pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi dors-tu, Seigneur? Et ça, c'est la situation de ta vie. Il y a des situations où tu es retenu. Ça peut être dans ton mariage, ça peut être par rapport à nos enfants. Hein, on voudrait que nos enfants se convertissent. Oui, le problème, c'est que ce n'est pas du papier à musique. Hein. Ils se convertiront quand le Seigneur les touchera. On les éduque. Parfois, hop, ils se convertissent facilement. Mais parfois, il y a du fil à retordre. Et puis, c'est pas juste du fil de fer. Hein. C'est des câbles gros comme ça là, pour amarrer les paquebots. Tu vois. Ils nous donnent du fil à retordre. Et puis, ils se convertiront, mais quand le Seigneur les touchera. On voudrait bien être la bonne famille chrétienne idéale. Quoi. Papa, maman et les enfants qui sont tous au Seigneur. Mais des fois, c'est ça et des fois, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Hein, ceux qui sont mis en échec, mis en difficulté dans la famille, c'est des moins bons chrétiens que les autres? Ah ben, je crois pas. C'est parce que les choses, elles vont pas comme on veut. Parfois, puis souvent, puis presque tout le temps. Alors ça peut être dans notre famille, ça peut être sur notre lieu de travail, ça peut être par rapport à notre santé, ça peut être par rapport à des relations dans la maison du Seigneur, des relations, ça peut et puis c'est des choses que l'Église vit. L'Église qui connaît des victoires et puis parfois l'Église qui est attaquée, l'Église qui est éprouvée, l'Église qui est persécutée et l'Église qui est visiblement, en tout cas à vue humaine, qui semble être complètement détruite. Là où j'ai travaillé 12 ans, à vue humaine, maintenant, si on regarde, il y a une famille qui nous est restée fidèle, sinon on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et les ennemis proclament la victoire, on a chassé Joël, il n'y a plus que 20 personnes dans l'église, et on a l'impression que tout est perdu. Et pourquoi tout est perdu? On ne sait pas. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Et pourtant, il y a cette parole, c'est à cause de toi, ce combat... C'est pas quelque chose qu'on décide, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose dont on fixe les limites, hein, comme une épreuve sportive. Le marathon, ça beau être un marathon, mais ça a une durée fixe, hein, ça dure 40, 41, 42 kilomètres, et puis bon, il y a le départ, il y a l'arrivée. Mais là, non, c'est pas nous qui décidons quand l'épreuve vient, c'est pas nous qui décidons quelle épreuve ce sera, c'est pas nous qui décidons. Quand elle finira, elle finira peut-être demain, et peut-être que c'est nos enfants, on sera plus là, et c'est nos enfants qui verront la fin de l'épreuve. Non, on décide rien. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Et pourtant, il est convaincu de la victoire du Seigneur. Et c'est ce que Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est ça le combat qui est placé devant nous. C'est le Seigneur, il nous demande si on l'aime et si on lui fait confiance. Il nous demande si on souffre pour la situation de son peuple. Et pourquoi est-ce que son peuple souffre? Et pourquoi est-ce que l'Église est persécutée? Et pourquoi est-ce qu'on rencontre l'adversité? Parce que c'est l'adversité du Seigneur, parce que c'est les souffrances du Seigneur. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit... En parlant du Seigneur Jésus-Christ, il a souffert l'opprobre hors de la porte, c'est-à-dire hors de l'enceinte de la ville. Il a été crucifié à l'extérieur. Et bon, là, il y a un lien avec l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, vous aviez les vaches rousses, les boucs émissaires, c'est-à-dire vous aviez ces animaux qui sur lesquels on chargeait le symboliquement, bien sûr, le péché du peuple, et ils devaient être chassés hors de la ville et ils devaient mourir à l'extérieur. Et ils étaient le symbole de honte. Et bon, la croix, c'est un symbole d'opprobre, c'est un symbole de honte. C'est pour ça, bon, porter la croix comme ça, il faut bien un petit peu réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? C'est terrible, c'est un symbole de honte, c'est un symbole d'opprobre. Il a été crucifié hors de la ville, c'est-à-dire avec les vauriens, avec les malfaiteurs, avec les déchets de la société. Et il dit... portons donc nous aussi l'opprobre de Christ, sortons avec lui hors du camp,
pour porter sur nos propres. C'est-à-dire, hors de la société bien gentille, parfois bien religieuse aussi, de ceux qui sont bien pensants, de ceux qui sont théologiquement bien corrects et politiquement bien corrects et qui sont dans la ville et puis qui ont crucifié le Seigneur. Donc, sortons de tout ça. Sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Portez l'opprobre de Christ. Participez à ses souffrances. Participez à son opprobre. Allez-y, sortez de là avec lui pour participer à sa gloire. Et c'est ça le combat qu'on mène. C'est ça le combat qu'on mène de savoir où on se trouve, à qui on appartient, de quel peuple on appartient, de porter cet opprobre de Christ, de participer à ses souffrances pour participer à sa gloire. Et voilà le combat, c'est le combat que vous vivez, c'est le combat qu'on vit en Bulgarie, c'est le combat que vivent tous les enfants de Dieu. Tous les véritables enfants de Dieu, tous ceux qui ont pris position. Si tu as pris position, c'est le combat. Et ça pourrait, il y a des moments, ça paraît désespérant. Mais dans l'œuvre de Dieu, même si tu as tout perdu, tu n'as rien perdu. Et je dirais même, c'est quand on a tout perdu qu'on voit que réellement, ce qu'est le Seigneur pour nous, personne ne peut nous le prendre. C'est ce qui nous a été donné en Jésus-Christ. C'est établi pour toujours, c'est donné pour toujours. Que peuvent nous faire les hommes? Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Il dit, ni la mort, ni la vie. Donc quand il a dit déjà, ni la mort, ni la vie, c'est-à-dire rien. Et puis ensuite, il cite, si par hasard on aurait peur, les persécutions, la maladie, la faim, la solitude, le péril, les guerres, tous les démons, là, toutes les forces démoniaques. Il dit, non, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons d'agir, d'intervenir en notre faveur, en faveur de ton Église. Ton Église ici à Ris, en région parisienne, ton Église au Maroc, on entendait des choses terribles hier sur ce que les orphelins vivent, sur ce que les pasteurs vivent, les chrétiens vivent. Ton Église en Bulgarie, un Seigneur qui fait face aussi à une telle opposition en ce moment. On se tient vraiment devant toi et on te demande ta grâce, on te demande ton assistance. On te demande, Seigneur, de ne pas nous tenter au-delà de nos forces, de ne pas nous éprouver plus que ce qu'on peut supporter selon ta promesse. On te demande de nous donner de l'espérance, de nous donner de l'encouragement, de nous donner la possibilité vraiment de voir les manifestations de ton amour, de les voir là où elles sont, Seigneur, dans l'amour des frères et sœurs, de pouvoir sonder ta parole et voir dans ta parole l'assurance que tu nous donnes, que tu donnes à ton Église. De nous garder de toutes les séductions de notre temps, de toutes les déviations, de la tentation de vouloir évacuer la souffrance, de vivre une vie facile, de renoncer à l'opprobre pour le Seigneur Jésus, de renoncer à participer à la souffrance du peuple de Dieu, Seigneur. Je t'en prie, protège ma famille, sous la protection du sang de Christ, mon épouse, mes enfants, protège les épouses, les enfants de tes enfants, de tes serviteurs, de la famille pastorale ici, Seigneur. Nous te demandons de protéger chacun d'entre nous qui sommes venus, de nous protéger sur la route, notre départ, notre arrivée, de nous garder, Seigneur, jusqu'à l'arrivée dans la patrie céleste. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Merci Joël pour ce...